On jase vous est présenté par Ford du Canada. Construit avec fierté.
Bon midi tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de On jase, mercredi le 6 octobre 2021. J'espère que vous êtes en forme, que ça va bien, on a une belle journée. On est précisément à une semaine du début de la saison régulière dans la Ligue nationale de hockey pour le Canadien qui va amorcer le tout mercredi prochain du côté de Toronto face aux Leafs. C'est le lendemain, ils seront à Buffalo pendant que mon ami Martin Lemay s'installe avec nous. Aujourd'hui à l'émission, bien évidemment, on va revenir sur cette mauvaise performance, ou on peut appeler ça comme ça, c'était assez ordinaire hier soir du Canadien face aux Leafs. François Gagnon sera avec nous pour en discuter. Benoît Brunet dans la deuxième portion d'émission également. On va revenir sur notre joueur électrisant qu'on avait ciblé hier, quoi qu'il n'a pas été très, très électrisant, Ryan Poehling. On va en parler avec Martin et François dans quelques instants, mais je pense qu'on est en mesure d'aller retrouver mon chum Martin Lemay qui est là. Salut Martin, bon midi!
Hello, bonhomme, ça va bien?
Ben oui, ça va bien, toi aussi?
Oh ouais, j'ai quelques petits pépins techniques, mais on a tout réglé ça et on est prêt pour une grosse émission aujourd'hui. En tout cas, nous autres, on n'a pas voyagé à Toronto dans la même journée. Nous autres, on va être prêts parce que hier, on va être honnête avec toi, c'était pas chic. Écoute, j'écoutais Denis Gauthier après à la chambre qui disait qu'il haïssait ça, les vétérans, faire ce voyage-là. Sais-tu quoi?
Ouais.
Ça paraît. Il avait tout l'air à avoir haï ça hier.
Oui, exactement. Écoute, Martin, si tu veux, tu sais, hier, on a parlé aux gens juste avant d'aller rejoindre François Gagnon, puis ça sera d'ailleurs un des premiers sujets avec lui. Mais on a une nouvelle petite capsule à On jase avec notre commanditaire Ford du Canada concernant le joueur électrisant. On cible un joueur qu'on veut surveiller, on en parle un petit peu, et le lendemain, on revient sur ses performances. Quoique hier, ça n'a pas été excellent. On va revenir sur notre joueur électrisant Ford dans deux petites secondes.
Le joueur électrisant vous est présenté par Ford du Canada.
Alors, Martin, nous avions choisi Ryan Poehling. Ouais.
J'avais demandé à changer le électrisant pour pas électrisant. Mais regarde, on va essayer d'arrêter de s'acharner sur Ryan Poehling. On va y aller à, tu sais, juste en haut, là, joueur électrisant, j'aurais marqué joueur, puis un pas en biais. Mais regarde, on va arrêter de s'acharner, puis on va essayer de trouver des points positifs. Il est 58% sur les mises en jeu. C'est ça.
J'ai pas rien. C'est ça, il n'y a pas d'autre positif. Ben, tu sais quoi?
Non.
C'est un des sujets à François Gagnon, donc si tu le permets, on va l'accueillir immédiatement pour poursuivre la discussion sur Ryan Poehling, parce que bon, il a publié un texte sur le RDS.ca ce matin, j'ai eu l'occasion de le lire toi aussi. On va en discuter. Hey Frank, comment ça va?
Ça va très bien. Vous savez, électrisant, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être positif, mais quand tu prends un choc électrique, c'est rarement positif. Alors, hier, il a été électrisant. Il a donné des chocs à tout le monde. Il a secoué les Maple Leafs positivement. Puis, il a endormi ou engourdi son équipe parce que, encore une fois, dans sa zone hier. Puis, Martin, je t'ai entendu dire on va arrêter de frapper sur le clou. Non! Si c'était un jeune qui retournait dans la Ligue junior, qui était encore en apprentissage, je serais entièrement d'accord avec toi. Si c'était un gars comme Harvey Pinard qui a été retourné à Laval, qui est en progression, je serais d'accord avec toi. Mais ce gars-là va commencer peut-être l'année avec le Canadien, puis ils vont être mal pris de commencer l'année avec parce qu'ils ne méritent pas de commencer l'année. Et ce gars-là doit assumer la pression qui vient avec son mandat. Alors, on le branche sur le 220 et puis on le grille un peu.
Écoute, d'abord, on a d'ouvrage, mon François, parce qu'on peut dépeindre tous ces défauts qu'il y a d'hier, mais l'ouvrage va venir d'essayer de trouver des choses positives qu'il a faites. Immédiatement après le match, là, Dominique Duchamp m'a dit « Evans, j'ai aimé sa partie. » À part ça, bien ordinaire de tout le monde. Et il a confirmé dans le même point de presse que Poehling va encore jouer ce soir un quatrième match de suite parce que
demain,
c'est sûr qu'il n'a pas vu ce qu'il voulait voir jusqu'à maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il fait de positif sur la glace? Tu vois-tu des choses? J'ai dit 58% sur les mises en jeu. À part ça...
Écoute, j'ai vu une coupe de pas. En zone offensive, ça arrive qu'il réussisse à se démarquer, mais je vois pas un gars qui en fait assez. À l'attaque comme en défense. En défense, il ne fait rien de bon. C'est pas compliqué, là. Il est vraiment perdu dans son territoire. En désavantage numérique, hier, il y a une séquence qu'on a passée en boucle dans le bureau de l'antichambre. Il s'occupe de la pointe gauche, OK? Puis, au lieu de s'assurer de contenir son joueur puis de s'assurer qu'il va le pousser vers la bande au pire, hey, il a mordu une feinte puis il s'est tourné vers le centre. Il a donné toute l'ouverture. Ça a donné une des nombreuses occasions de marquer au Leaf. Sur ce jeu-là, Montembeault a réussi à faire l'arrêt. Mais en ce qui concerne Poehling, je vois rien de positif. Et ce que je voulais voir de positif, c'était une progression. La première fois qu'il est venu nous parler au camp d'entraînement, on sentait un gars qui était un petit peu plus humble que par les années passées. J'ai appris l'an dernier à Laval. J'avais besoin de voir du millage. J'avais besoin de jouer dans la Ligue américaine. Ça me semblait tout positif, ça, pour un gars qui considérait que la Ligue nationale lui était due dès le moment où il a marqué ses 3 buts puis qu'il en a ajouté un 4e dans un match qui ne voulait rien dire. Le 4e était en tir de barrage. Alors là, je me disais, bon, il va avoir une nouvelle attitude aussi sur la glace, mais non. Il travaille pas assez. Non seulement il travaille mal, mais il travaille pas assez. Tu sais, il y en a des fois qui essayent de trop en faire. Tu dis, contiens-toi, là. Tu es en train de te perdre sur la patinoire. Mais dans le cas de Poehling, c'est pas parce qu'il essaie de trop en faire. Le peu qu'il fait, il fait mal.
Ouais, puis son langage corporel aussi, les gars, hein. Moi, tu sais, souvent, quand un gars, ça va mal, tu vois qu'il est enragé, tu sais. Je prends toujours l'exemple de Gallagher. Là, quand il arrive au banc, il veut tout casser, il est enragé, puis ça paraît dans son visage. Lui, on dirait qu'il est toujours au même niveau. Le langage corporel est tout le temps comme endormi. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ce que je mentionne, mais ouais, on dirait que, il me semble, tu arrives au banc, casse un hockey, fais quelque chose. Je ne sais pas. Donne une mise en échec. Lui, là, on dirait qu'il est flat. Il est comme sans saveur. Je pense que c'est ça le bon terme.
Bien, écoute, ça, là, ce serait une bonne nouvelle si Ryan Poehling réalisait ou faisait ça parce qu'il réalise qu'il n'a pas sa place encore dans la Ligue nationale. Mais ça, il y a juste lui qui le sait, puis les gars dans le vestiaire, là, de la manière dont il parle avec ses coéquipiers. S'il est comme ça, puis qu'il joue aussi mal, et puis que tout le monde réalise, sauf lui, qu'il n'a pas encore sa place dans la Ligue nationale, et que s'il commence la saison mercredi prochain à Toronto, que ce soit au sein d'un 4e trio ou comme 13e attaquant, ce sera juste et seulement à cause des blessures. Parce qu'au niveau hockey, ce gars-là ne mérite pas, mais pas une seconde de commencer l'année. Peut-être que demain, il va être meilleur, mais dans l'ensemble des performances au camp d'entraînement, et lui, il n'a pas besoin, il n'a pas le droit, pas besoin, il n'a pas le droit de dire, « Ah, oh, mais moi, voyager, là, la journée des matchs, j'aime pas ça. » Hey, Baptiste, ouais, le vol entre Montréal et Toronto hier, ça a été moins long que le trajet entre Ville-Saint-Laurent et RDS en auto. Fait que, tu sais, lâchez-moi avec la fatigue des voyages, là. Hein? Je veux dire, il y a toujours bien des
pas dit fatigue. J'ai dit que Denis Gauthier a dit que ça faisait suer pour pas dire autre chose. Parce que quand je suis au téléphone,
ouais, je comprends. Je vais modifier fatigue pour le désagrément des voyages. Tiens. Puis ouais. Les changements de routine. Hey, si tu t'appelles Jeff Petrie, Carey Price, Jake Allen, si tu es un vétéran, même de 3-4 saisons dans la Ligue nationale, je peux accepter ça. C'est pour ça que dans les évaluations des matchs là, de préparatoire, c'est bien rare que je vais dire qu'un vétéran s'est traîné sa vatte. Parce que ces matchs-là ne veulent rien dire pour eux autres. Mais quand tu es un jeune qui a l'occasion de prouver quelque chose, et plus encore, quand tu es un gars comme Poehling qui doit prouver qu'il mérite une place dans la Ligue nationale, hey, lâche-moi les excuses, puis sors le ventre à terre, peu importe les circonstances, hey! Qu'il te fasse marcher pour te rendre à Toronto, c'est pas grave. Faut que tu joues, puis que tu joues à ton maximum. Et si ça, c'est le maximum que Poehling a à offrir, le Canadien va être dans le trouble.
François, je vais te poser une excellente question. Je suis convaincu qu'elle est excellente, cette question, et tu seras d'accord pour dire qu'elle est excellente. Pourquoi on est aussi patient avec Ryan Poehling? J'ai lu ça quelque part, moi. C'est une bonne question. Pourquoi on est aussi patient avec Ryan Poehling?
Écoute, j'aurais pas une excellente réponse à t'offrir. Et ma réponse va commencer par peut-être. Hey, et la raison pour laquelle ma réponse va commencer par peut-être, c'est qu'il ne mérite pas qu'on soit aussi patient. Et c'est peut-être parce que c'est un choix de première ronde en 2017, 25e sélection. À part de ça, je ne vois absolument pas pourquoi on monte autant de patience à Ryan Poehling.
pour que les gens comprennent, dans le texte de François ce matin, il pose la question comme ça. Pourquoi autant de patience envers Poehling? Fait que vous ne pouvez pas me dire que ma question n'était pas bonne. C'est lui qui l'a écrit ce matin. Moi, je vais te le dire, par exemple. La seule raison que je vois, ce n'est même pas parce que c'est un premier choix. C'est parce que c'est leur plan A, c'est leur plan B. Leurs œufs sont tous misés sur lui. La preuve, c'est qu'on lui donne toutes les chances de s'en sortir. Et là, on voit que le plan C, c'est pas de ramener Drouin comme François et moi on souhaitait. Le plan C, c'est Mathieu Perrault. Là. Fait que le Canadien, il se dit, on va le laisser encore parce que c'est ça notre plan A.
Ben, si Cédric Paquette est en mesure de jouer mercredi prochain, puis je dis si, Poehling devient moins essentiel au sein d'un quatrième trio, parce que là, tu peux avoir au quatrième trio Paquette avec Perrault d'un côté et Lekkonen de l'autre. T'sais? Ça se tient comme trio. Mais en ce moment, tu as raison, le Canadien est obligé d'afficher de la patience à l'endroit de Poehling parce que les blessures forcent la main de tout le monde. Et pour l'instant, Jonathan Drouin ne peut pas s'en aller au centre parce que Mike Hoffman n'est pas là. Et pour l'instant, on offre une belle occasion à Jake Allen de prouver, et je fais partie des sceptiques, pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que je trouve que la marche est trop haute cette année. Mais on est en train de donner l'occasion à Jake Evans de prouver qui peut être un centre du top 9. Je ne dis pas troisième trio, parce qu'il y a certains soirs qui vont peut-être jouer plus que le trio de Dvorak ou peut-être plus que le trio de Suzuki. Alors, il est dans le top 9, il pourra arriver certains soirs qui vont être plus occupés que d'autres. Et ça, pour moi, c'est un maudit gros défi. C'était d'ailleurs le titre de mon texte. Et je me demande vraiment si le petit gars est en mesure de le faire. Et la raison pour laquelle il est là, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre option valable pour le moment.
Bon. Bien, justement, puis il y a des gens, François, sur Facebook là, qui commentent et qui te posent des questions. D'abord, je salue P.O. Deschênes. Je salue également Jeannot Chandonnet, Pierre-Olivier Perrault, André Tremblay. Il y a Marco Larrabie qui te pose la question. OK, j'écoute ce que vous mentionnez, les boys, là. Est-ce que l'option d'aller chercher un joueur de centre pourrait, se laisser tenter, là, Marc Bergevin, de faire une transaction? Et lui, il mentionne, puis je vous pose la question aux deux, là, Henrik Anaheim, là, Adam Henrique, qui pourrait être disponible selon ce qu'il mentionne. Pensez-vous que le Canadien pourrait aller chercher un joueur de centre pour combler cette faiblesse-là? Là? Je commence avec François.
Écoute. À court terme, là, j'ai l'impression, quand on regarde toutes les chances qu'on donne à Evans puis qu'on l'entoure de Armia puis Gallagher pour former un vrai trio de Ligue nationale, j'ai l'impression qu'on va attendre de voir ce que Evans peut démontrer. Une transaction, je crois pas, à court terme. OK, je reviens sur le « à court terme », Marco. Ça, c'est essentiel. Mais à court terme, qu'est-ce qui va arriver? Bien, la semaine prochaine, deux jours avant le début de la saison, toutes les équipes vont déposer leur liste de 23 joueurs. Et là, les joueurs qui devront être envoyés aux ligues mineures seront soumis au ballottage s'ils sont obligés d'y passer. Peut-être que dans ces joueurs-là, le Canadien pourrait voir, comme il a vu avec Samuel Montembeau, une police d'assurance à court terme. Alors, c'est ça, moi, que je vais regarder la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des vétérans joueurs de centre, style Cédric Paquette, mettons, là, des gars que certaines équipes disent, bon, ben sais-tu quoi, on va miser sur la jeunesse, quitte à perdre ce gars-là au ballottage, qui pourrait venir à court terme puis qui serait automatiquement meilleur que Poehling, comme Montembeau est automatiquement meilleur que Kaden Primeau. Meilleur maintenant. Peut-être que dans deux ans, ce sera différent, mais pour l'instant, on conjugue
est-ce
au,
qu'ils ont de
au
l'argent?
Présent, là, ici.
Le CH
ils ont de la place pour,
François,
le,
hein,
pour le prendre. Oui, ouais, mais là, je parle pas d'un contrat faramineux. Là. Je parle pas de quelqu'un
non.
est placé au ballottage en disant « Hey, on est tellement tanné de payer ce gars-là à rien faire qu'on va espérer qu'un club le prenne. » Moi, je te parle vraiment d'un joueur d'utilité là, qui va gagner un salaire décent dans le rôle qui lui sera décerné si jamais il s'en vient à Montréal. Alors, la transaction... Peut-être qu'elle va venir, mais elle va venir une fois les joueurs blessés revenus, une fois les solutions à l'interne testées, vérifiées, et qu'on aura conclu, « Ouais, c'est-tu quoi? » On pensait que ça marcherait, là, mais ça ne marche pas vraiment. Parce que si le Canadien décroche de la course aux séries dès le milieu du mois de novembre, je veux bien croire que ça va être serré, je veux bien croire qu'il y a beaucoup de parité, mais tu ne peux pas te permettre de gaspiller des points, que ce soit en octobre ou en novembre, au même titre qu'au printemps, dans le dernier droit de la saison.
Moi, je vais répondre. Si Adam Henrik est disponible, Marc Bergevin va le savoir assez vite. C'est son chum Murray, Bob Murray, qui est à Anaheim. Ce gars-là, par contre, a encore un contrat pesant de près de 6 millions par année, 5,8 avec une clause de non-échange. Malheureusement, pour le Canadien, ça aurait peut-être été un bon troisième centre où tu mets Jake Evans. Puis on en reparlera de Jake Evans parce qu'on l'aime beaucoup. Hein? Encore une fois, hier, Dominique Ducharme a été élogieux envers lui. Fait que, tu sais, il y a encore quelques années à son contrat à part de ça pour Adam Henrique. Fait qu'à 6 millions, là, je ne verrais pas le dossier aboutir du côté de Adam Henrique, malheureusement. Puis je parlais, François, de Jake Evans. Je ne sais pas si je m'excite parce que Dominique Ducharme en parle bien à chaque fois, mais on voit de l'intelligence en attaque qui me ferait croire que ce gars-là pourrait être plus productif qu'un Philippe Dano, meilleure finition que Philippe Dano.
Bien, sais-tu, ça c'est vraiment intéressant, Martin, parce que il y a beaucoup de partisans du Canadien qui aimaient Philippe Dano, et on avait plein de raisons d'aimer Philippe Dano, là. Au-delà du fait que c'était un Québécois francophone puis qu'il représentait l'équipe, il jouait très bien. Il a muselé Matthews et Marner en première ronde des séries. Il a continué tout au long des séries à être efficace. Bon, le Canadien ne voulait pas donner à Dano l'argent que Dano pensait obtenir. Il en a obtenu pas mal à Los Angeles, mais quand vous faites les comparaisons, là, l'argent qui rentre dans le compte de banque, finalement, puis avec lequel il vit, là, est pas beaucoup supérieur à Los Angeles que ce qu'il aurait touché ici à Montréal. Mais à Montréal, il y avait un mandat qui l'attendait, qui va être le mandat qu'on va donner à Jake Evans pour 1 700 000 $ par année. Pour les trois, en fait, pas pour les trois prochaines années, parce qu'il est déjà sous contrat cette année, mais pour les trois saisons qui vont suivre la saison qui commence. Alors, c'est un gars de soutien. Ce que Dano allait devenir à Montréal et ce que Dano deviendra à Los Angeles, c'est normal, c'est ce qui l'attend. Maintenant, est-ce que Philippe Dano ou est-ce que Jake Evans a autant ou plus d'offensives à offrir que Philippe Dano? Ça, c'est une des questions à laquelle on ne peut pas répondre maintenant, mais à laquelle le temps va nous aider à répondre. Et là, on l'entoure avec Gallagher, qui était au sein du trio de Dano. Pour moi, il y a une indication claire là qu'on dit à Evans, tu vas nous devenir notre prochain Philippe Dano. Armia a moins de touches offensives que Tatar en avait, mais c'est un gars qui, quand il se réveille, il est capable de contribuer offensivement. Donc,
c'est peut-être je la place d'Hoffman avait que... sur le tableau. Oui. Où il aurait Tatar, Dano, Gallagher, ça donne Hoffman, Evans, Gallagher, ça se ressemble.
Oui, puis là, à ce moment-là, Gallagher puis Evans sont aussi bien d'être attachés avec un élastique à leur poteau début, parce que l'autre ne reviendra jamais, fait qu'eux, il va falloir qu'ils reviennent souvent. Mais il reste
un
que ça pourrait être une combinaison qui pourrait être intéressante, tu vois. Alors, dans ces circonstances-là, on va donner l'occasion à Jake Evans de prouver que défensivement, il peut devenir Philippe Dano et qu'offensivement, il est capable d'en donner davantage. Il y a bien du monde, quand Christian Dvorak est arrivé, qui ont dit « Ah, Dvorak ne remplace pas Kotkaniemi, il remplace Dano. » Regardez les statistiques, là. Dvorak est déjà devant ce que Dano donnait offensivement. Il est même en mesure d'en donner plus à court terme que ce que Kotkaniemi offrait aux Canadiens. Je ne parle pas de ce qui va arriver en Caroline. Ça, je ne le sais pas. Puis il va peut-être être mieux entouré en Caroline qu'il l'était à Montréal. Mais en ce moment, moi, là, mon focus, puis je te l'avais dit hier, Martin, était centré uniquement sur Jake Evans hier, et on doit lui donner une bonne note pour le match qu'il a disputé. C'était le meilleur joueur du Canadien. Vous me direz que la majorité ont été bien, bien mauvais ou ordinaires. Je suis d'accord avec ça. Mais en première période, malgré les 24 tirs des Leafs contre les 7 du Canadien, Evans a ressorti positivement ce que ses coéquipiers n'ont pas fait, à part Samuel Montembeau.
OK, une rapide, François, sur Facebook. Là, il y a deux commentaires que j'ai retenus. Olivier Gaulin-Gingras qui parle d'Harvey Pinard, qui est déçu qu'il soit retranché et non Péling. Et il y a Pascal Jobin également qui te demande ton appréciation d'Harvey Pinard. Et penses-tu que le Canadien pourrait faire appel à ses services au cours de la saison? Tu sais, je pense que oui, là, mais il veut connaître ton opinion là-dessus.
Bien, écoute, s'il va consulter mon texte, là, j'ai un petit paragraphe à la fin là, dans mes petites nouvelles brèves que j'appelle entre les lignes, là. Harvey Pinard m'a prouvé qu'il va jouer dans la Ligue nationale sur une base régulière. Quand? Je ne le sais pas. À Montréal ou ailleurs? Je ne le sais pas non plus. Mais encore hier, malgré les déboires collectifs du Canadien, tu voyais que ce gars-là était impliqué dans le jeu. Tu vois que ce gars-là comprend le jeu. Ce qui n'est pas le cas de Poehling à certains égards, ce qui n'est pas le cas de Romanov, qui, lui, est le joueur le plus décevant des derniers matchs, bien plus décevant que Poehling encore. Mais Harvey Pinard a besoin de millage, a besoin de jouer beaucoup, et j'aime pas ça dire des grandes affaires de même, mais je suis convaincu qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Un troisième, un quatrième trio, un deuxième, ça, c'est à lui de le déterminer par ses performances. Mais je vois dans ce gars-là le talent, la vitesse, le sens du jeu pour atteindre la Ligue nationale. La dernière variable, là, c'est lui qui l'a à quelque part ici, là, c'est sa volonté. Et je crois que la volonté est là et c'est à lui de le prouver.
Oui, puis je veux juste rappeler aux gens que si Canadien avait signé Dano, au cash qu'il demandait, le Canadien n'aurait pas été chercher Dvorak. Donc, à 1 million de moins, 4,5 versus 5,5, je sais qu'il y a l'aspect francophone là-dedans, mais j'aime mieux Dvorak à 4,5 que Dano à 5,5. Il y a plusieurs commentaires sur la messagerie, François. Il y en a beaucoup qui parlent de Jake Evans. Martin Lajoie qui dit « Evans va revenir pour couvrir en défense pour Hoffman, c'est sûr ». Il y a Jimmy qui dit « Evans et Montembeau ont été les meilleurs du Canadien hier ». Pas des farces, hein? Quand tu dis que ton gardien de but qui a donné 6 buts a été un de tes meilleurs, puis sais-tu quoi? Il était bon, là, mais pauvre petit. Je le disais hier à Yannick, il ressemblait à Denis Lemieux dans Slapshot.
Tassez-vous!
Ça n'a pas de sens.
Il n'y avait pas besoin de dire « tassez-vous ». Il se tassait tout seul. Écoute, vous avez vu le but au Fairbrother, puis Romanov était rendu quasiment en zone neutre, alors que Gallagher s'est viré de bord, puis dit « Quoi? Il y a un gars en avant de notre gardien. Il n'y en avait pas rien qu'un, il y en avait deux. » Alors, non, écoute, c'était épouvantable. Pauvre Montembeau. Mais il a prouvé qu'il était prêt, ou davantage prêt, que Caden Primeau à être l'adjoint de Jake Allen si jamais Price ne commence pas la saison avec le Canadien.
Je suis même pas sûr, moi, prête, pas prête. T'sais. On ne veut pas Primeau comme l'an passé, assis au bout du banc. Il a joué 16 matchs de hockey l'an passé parce qu'il a passé son temps sur ses fesses à regarder Jake Allen. Fait que c'est pas ça que tu veux. Tu veux qu'il soit en bas en train de jouer des matchs. Puis Montembeau va rester là le temps que Carey Price n'est pas prêt. Puis quand Price va revenir, bien, si Montembeau a montré des belles choses, peut-être que quelqu'un va vouloir l'avoir pour un 16e choix. Sinon, on le repassera au balotage, c'est tout.
Complètement. Entièrement d'accord. J'ai l'impression qu'il fait juste passer, mais qu'il va peut-être donner des bons services aux Canadiens.
Oui, peut juste augmenter sa valeur de passer au balotage à peut-être avoir un choix pour. Puis si on n'a rien pour, ben regarde, il n'a rien coûté, ça n'a rien coûté pour n'a rien eu pour.
C'est ça
qui est ça. OK. Des commentaires, il y en a plusieurs. T'sais, les gens qui ont été coupés, entre autres, Pezzetta se retrouve dans la Ligue américaine d'hockey, devra passer au balotage. Les gens posent la question à ce sujet-là, Yannick. Il y a eu d'autres joueurs qui ont été retranchés du côté du Canadien. Le plus connu est Harvey Pinard. Qui s'en retourne du côté de Laval. Les trios ce matin, les gars, avant d'aller à la pause de télé, vous dire que Toffoli, Suzuki et Caulfield qu'on devrait voir demain, Drouin a retrouvé Dvorak et Anderson, Armia, Evans et Gallagher. Et Poehling, encore une fois, au centre de Belzile et Perrault, devrait faire une paire. Romanov était de retour avec Petrie, Chiarot était avec Savard. Donc, l'expérience Goulet-Savard est terminée. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait parler, François. Encore une fois, hier, c'était pas chic. Et un autre que c'était pas chic hier, Wineman, hein, qui jouait sur une première paire avec Chiarot. Il a trouvé que ça allait vite un peu de son côté. Troisième paire, on a Kulak et Wineman. Il y avait une rotation qui se faisait également avec Goulet. Les gens à la télé, vous allez aller au grand titre. Nous, on poursuit sur le web jusqu'au retour. Entre autres, Benoît Brunet va joindre.
Hey, t'as lancé plein de
perches. Vas-y, Yannick.
Ah ben, je vais lancer François là-dessus. Là. On va parler de la défensive un peu. Tu as parlé de Caden Goulet, tu as parlé de Wineman. Là, je voyais François qui faisait signe de la tête comme ça. Ça n'a pas été facile. Puis Romanov non plus. Frank, je te laisse aller avec la défensive. Ben, Goulet, il va retourner
maintenant. Oui, j'espère que Goulet va retourner. J'espère même qu'on ne le gardera pas pour le début de saison. Ce n'est pas nécessaire. Il a prouvé ce qu'il avait à prouver. Ce gars-là aussi, il va atteindre la Ligue nationale. Il va être bon dans la Ligue nationale. Hey!
il va aller jouer junior cette année, il va aller au championnat mondial junior, va être parmi les leaders de l'équipe canadienne, peut-être le capitaine. Parfait. Puis si l'an prochain, il doit aller faire un an dans la Ligue mineure, ça sera parfait aussi. L'expression « on les amène jamais trop tard, mais on les amène souvent trop de bonheur », on l'a vécu à Montréal trop souvent. Alors, il faudra être patient avec lui, mais comment est-ce que je dirais bien ça? La matière brute, la matière première est excellente. Mais là, la matière première de Whiteman puis la matière première de Romanov, m'excuse, là. Hey, de voir Romanov avec Petri en ce moment à l'entraînement, ça me dit... Hey, ils vont peut-être être obligés d'avoir ça pour commencer l'année parce qu'Edmundson n'a pas encore patiné, s'est pas encore entraîné avec son équipe. Ça, là, c'est une bombe à retardement, là. Hey, Jeff Petrie, qui a besoin de stabilité autour de lui pour être bon, c'est pas, on l'a vu là, quand il a joué avec des défenseurs qu'il mettait dans le pétrin. Il piquait du nez complètement. Il a besoin de jouer avec confiance et aisance. Cette confiance-là, Edmundson lui a donné l'an dernier. Avec Romanov qui joue comme une toupie, les deux vont être étourdis tellement qu'ils ne seront pas capables de produire. Ça m'inquiète beaucoup. Et Whiteman, ce qui m'inquiète, c'est les commentaires de Ducharme. Parce que le coach, il n'est pas fou, là.
On connaît leur tout
bien plus que moi puis nous autres mis ensemble. Il ne nous parle jamais des lacunes défensives. Il nous dit qu'il y a un bon tir, qu'il atteint le filet. Tout ça, c'est vrai. Mais c'est pas à cause de ça qu'il s'est ramassé dans le KHL parce que personne n'en voulait dans la Ligue nationale. C'est parce qu'il est dangereusement mauvais en défensive et il l'a prouvé hier. Tu ne peux pas avoir deux joueurs aussi... comment vous avez dit ça tantôt?
Électrisants?
Électrisants dans le sens négatif, comme Romanov et Whiteman au sein de ton six partant défenseur. Écoute, ton gardien ou tes gardiens, parce qu'ils vont venir en rotation, vont être découragés bien raides, puis les autres ne sauront pas quoi faire autour. Alors, moi, je t'inquiète de voir ces deux gars-là commencer l'année avec le Canadien, et ça se peut qu'ils soient obligés de le faire, un, parce qu'Edmundson est blessé, et deux, parce qu'on semble avoir vraiment aucune confiance en Brett Kulak, qui n'est pas mon favori, qui ne l'a jamais été, mais qui, en ce moment, est meilleur que Romanov et meilleur que Whiteman, du moins à mes yeux.
Ah ouais, moi je suis même pas rendu à penser que je monterais Chiarot avec Petrie pour garder une bonne première paire. Oui. Je garderais Savard avec Kulak parce que des fois Kulak, des fois t'en as une bonne. Puis j'essaierais de cacher ma troisième paire de Romanov avec Wineman en début de saison si Edmundson ne peut pas jouer. Écoute, je vais rentrer Benoît Brunet pour vous conter une anecdote, deux secondes de Bob Barkley m'a raconté sur Romanov. Ben Brunet, salut, comment ça va?
Salut Ben. Très bien, les gars. Salut les boys.
Yeah! Ben, content de te voir pour la nouvelle saison.
Ready to go.
Ready to go. Je vais parler avec Bob Barkley. Bob Barkley, tu connais très bien Romanov. Il a même été mangé avec le père de Romanov. Et le père voulait savoir comment c'était Montréal, tout ça. Puis il a passé par Bob Barkley pour savoir comment ça se passait à Montréal. Fait que vous pouvez vous dire que Bob, il a dit, il montrait ça pour pire. Mais malgré qu'il connaît bien Romanov, il me l'a qualifié de vieux char qui n'a pas de reculons. Il dit, il est comme un vieux char qui n'a pas de reculons. Et que ça, quand tu es à défensive, c'est un léger problème. Je ne sais pas ce que tu en penses, François.
Il
n'y
a peut-être pas de reculons, puis il n'y a pas de volant non plus. Fait qu'il tourne d'un bord ou de l'autre, ça dépend du vent, parce que c'est pas lui qui a de l'air à décider toujours où est-ce qu'il veut aller.
Oui, bien Ben, dit Petrie a fait une déclaration là, en faveur de Romanov en disant, on attend, il a juste 21 ans, c'est long, c'est établi, moi ça a été long pour moi aussi. Est-ce que tu acceptes ce commentaire du vétéran Petrie?
Ben oui, c'est long. C'est sûr que c'est long. Puis, gros problème présentement, ce qui s'est passé avec le Canadien au cours des deux dernières saisons, puis on a vécu une run incroyable l'année passée. Le Canadien s'est retrouvé une finale de la Coupe Stanley. Puis par défaut, dans la bulle à Toronto, le Canadien a participé aux séries. Puis je pense que les attentes sont très élevées à l'endroit de l'équipe. Les attentes sont très élevées à l'endroit de nos jeunes. On les vante pendant un an ou deux. Puis là, quand ils arrivent, bien... Des fois, ils ne sont pas prêts à 100% à jouer dans la Ligue nationale. Fait que moi, je pense que c'est le gros problème présentement, c'est qu'on n'a pas beaucoup de profondeur. Je sais que j'ai parlé à Yannick tantôt, là, je vais en parler plus tard, mais je pense que c'est pertinent que j'en parle présentement. C'est incroyable la salive. Je ne sais pas si François va être d'accord avec moi, là, mais c'est incroyable la salive qu'on a gaspillée au cours des 10 derniers jours à parler de Ryan Poehling. Ryan Poehling, c'est ton gars qui va jouer sur le quatrième trio. Pourquoi qu'on en parle, puis je suis d'accord avec François, on disait, bon, pas de première ronde, 25e en 2017, on veut lui faire une place, ça nous prouve quoi, messieurs? Ça nous prouve présentement qu'on a bouché nos trous avec Whiteman, rien contre Paquette Perrault, mais c'est les gens de l'extérieur de l'organisation pour amener notre profondeur. On n'en a pas de profondeur dans les mineurs. S'il y avait un gars qui était prêt à faire le saut à la position de joueur de centre avec le camp d'entraînement que Péling a connu, là, ben Péling ne serait plus là. Ça en irait dans les mineurs, puis c'est ce qu'il a de besoin. Il n'est pas prêt. Il a besoin de millage. Il n'a pas joué 100 matchs chez les pros encore. Il n'a pratiquement pas joué l'an passé pour qu'il ait joué au hockey. C'est peut-être la même chose avec Romanov. C'est peut-être la même chose, puis c'est ça le problème présentement. Notre profondeur n'est pas assez forte pour déloger ces gars-là, pour dire « Hey, je vais prendre soin du jeune, je l'envoie dans les mineurs, je vais le faire progresser. » Quand il va revenir, il va être prêt. Batterson a passé pratiquement 3 ans dans les mineurs avec des rappels. Il faisait la navette en Ottawa. Il est arrivé l'an passé, bang! Il est établi comme un joueur de hockey. C'est ça le problème qu'on a à Montréal présentement.
Benoît, on va juste permettre aux gens de la télé de revenir avec nous et de poursuivre la discussion tout en libérant François dans quelques instants. Pour les gens à la télé, nous sommes de retour. Benoît Brunet qui s'est joint à la discussion. Et avant de laisser notre ami François, je vais lui donner l'occasion de réagir un peu à ce que Benoît a dit. Pour situer les gens à la télé, Benoît a ramené la discussion un peu sur Ryan Poehling et disait qu'on a gaspillé beaucoup, beaucoup de salive dans les derniers jours en parlant de Ryan Poehling. François, je te laisse aller là-dessus avant de te laisser, Frank.
Écoute, je vais renchérir sur ce que Benoît a dit, puis vous pourrez élaborer là-dessus. Puis il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord, là. Mais dans un monde idéal, dans une organisation qui a de la profondeur vraiment, là, et je ne parle pas juste dans le club de la Ligue nationale, mais aussi dans la Ligue américaine, Ryan Poehling et Alexander Romanov commenceraient l'année dans les mineurs. De la manière dont ils jouent en match préparatoire, ils prouvent tous les deux qu'ils ne sont pas prêts à assumer une place dans la Ligue nationale. Mm-hmm. Puis, peux-tu vous rappeler une affaire, là? Romanov, il n'a pas commencé les séries. Pas parce qu'il y avait un trop-plein de bons défenseurs chez le Canadien. Parce que le coach était tanné de le voir prolonger ses présences, de mettre son équipe dans le trouble, de prendre trop de mauvaises décisions. Hey, il n'est pas meilleur là qu'il l'était en série, là. Alors, si on le place avec Jeff Petrie mercredi prochain à Toronto, ça va être un aveu, pas d'impuissance ou d'incompétence, mais ça va être un aveu que le Canadien manque de défense. Tu sais, un gars comme Xavier Ouellet, puis je donne son nom parce que lui, ça va être un vétéran de Ligue américaine. Les organisations en ont besoin de ces gars-là pour venir remplir un trou à court terme quand il arrive une situation comme celle-là en ce moment. Xavier Ouellet va-t-il être meilleur que Romanov dans 3 ans? Non. J'espère que non, en tout cas, pour Romanov. Mais en ce moment, il ne ferait pas pire que Romanov. Et pour moi, ce gars-là a besoin d'un stage plus ou moins prolongé dans la Ligue américaine. Et Poehling a besoin de retourner là-bas pour dire « Hey, petit gars, c'est bien de valeur, là. Tu avais des bien belles paroles au début du camp, mais tes actions ne justifient pas qu'on te garde ici. » On va le garder parce qu'il y a trop de blessures, puis parce qu'on n'a pas le choix.
Les gars, avez-vous pogné hier Stéphane Waite? Hey, François, je peux te laisser aller, mais juste te dire quelque chose. Hier, on a eu Stéphane Waite. Puis il nous a dit sur nos ondes, puis il y a eu un papier qui a été fait sur RDS.ca. Je ne sais pas si c'est le bout de Romanov dans le texte. Il a dit sur Romanov, il a connu un excellent début de saison avec nous autres. Puis il dit, il a fait des erreurs au début. Puis là, ils ont commencé à le rentrer dans le bureau, ils montraient des vidéos. Puis ils ont enlevé, je l'ai vu là, il dit, ils l'ont enlevé sa confiance un petit peu. Puis ils ont tout enlevé sa confiance à un moment donné. Là, ce gars-là, il jouait comme, à chaque erreur qu'il faisait, il savait qu'il rentrait dans le bureau pour passer aux vidéos. Puis on lui a enlevé sa confiance. Il dit, on aurait dû laisser jouer le petit gars. Le gars était là, l'an passé, là, Stéphane White, il l'a vu de ses yeux vus. Vous pensez quoi de ça? Benoît, peut-être,
ben, laisse-les jouer, laisse-les jouer d'une glace extérieure d'un parc. Laisse-les jouer sur le lac ou bien d'une extérieure. Il est dans la Ligue nationale. Il y a des responsabilités défensives, des responsabilités à l'égard de ses coéquipiers. Benoît Brunet, là, qui a compté plus que 50 buts avec les Olympiques de Hull dans le junior, quand il est arrivé dans la Ligue nationale, c'est son intelligence du jeu, sa lecture du jeu, puis le coach, il disait « Fais pas ce gaffe-là une autre fois », puis ses coéquipiers qui disaient « Va couper la glace de même, puis de même ». C'est ça qu'il l'a gardé dans la Ligue nationale. Il a bien beau avoir de l'instinct, il a bien beau avoir de la confiance, mais à un moment donné, il faut savoir jouer au hockey aussi. Et quand tu prouves que tu n'es pas capable de le faire en respectant le système, retourne jouer dehors. Il y en a plein des bons joueurs de la Ligue de garage qui se disent « Ah, oh, moi, j'aurais pu jouer dans la Ligue nationale. » Ben non, tu ne pouvais pas, puis tu t'es jamais rendu non plus. Salut!
Salut François! Il est en feu, On le retrouve la semaine prochaine. Salut Frank!
Salut Frank!
Bye!
Bye!
La, les séances de vidéo, là, si je peux me permettre rapidement, les gars, là, les séances de vidéo, ça dépend toujours comment le message va être véhiculé. Ça dépend aussi comment tu es prêt à accepter le message comment tu le perçois comme joueur, comment il est véhiculé par l'organisation. Que dans le fond, une séance de vidéo, peu importe si tu fais des mauvais jeux ou tu as des jeux positifs, là, si ta séance de vidéo, peu importe qu'elle est faite, c'est comment toi tu le perçois comme joueur. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour t'améliorer? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour quand tu vas sauter sur la glace pour t'assurer d'être prêt pour le prochain match? Puis, tu sais, le hockey, là, d'aujourd'hui, là, de la façon que les gars sont entraînés, là, de la façon qu'ils mangent, tout ça, là, que les psychologues sont. Je veux dire, là, ça se passe là, là. C'est là que ça se passe. C'est dans la tête. Je regarde jouer Poehling. Quand je dis qu'il n'est pas prêt, Poehling, là, c'est peut-être un peu la même chose avec Romanov. Là. Il joue avec la crainte de ne pas faire des erreurs. Poehling, je le regarde aller, là, il voudrait être bien positionné. Il ne veut pas faire d'erreurs. Il n'est pas capable de gagner des bagarres un contre un. Combien de fois encore hier qu'il s'est fait frapper le long des rampes et qu'il est tombé directement à terre? C'est un gars présentement qui joue pour ne pas faire d'erreurs. Ça veut dire que sa confiance n'est pas à la bonne place. Où tu retrouves ta confiance?
Survie.
Dans la Ligue américaine. Il survit. Il va être là par défaut. Puis c'est là, puis je reviens encore à ce que je disais tantôt. Je pense qu'on a un manque de profondeur. Tu sais, on a eu plein de choix de pêchage au cours des trois dernières années, là. Mais il n'y en a pas un encore là, qui m'a prouvé qui est prêt à faire le saut très, très jeune. Quand tu n'as pas 100 matchs de jouer dans l'Américaine, tu as un camp comme ça, là, ta place, c'est dans la Ligue américaine. Fait que si Paquette est prêt à jouer jeudi prochain, là, tu le fais jouer, tu mets Belzile comme 13e attaquant, tu mets Perrault avec Lekkonen, Paquette, puis tu dis à Poehling, bye-bye, tu t'en vas dans les mineurs, va travailler, va retrouver... ta confiance, peu importe ce que tu as besoin, là, puis va jouer des matchs, puis va jouer des minutes de qualité. Puis c'est la même chose avec Goulet. J'espère qu'on ne fera pas la même erreur qu'on a fait avec Kéké. Suzuki, là, souvenez-vous, les gars, Suzuki, si ma mémoire est bonne, là, lui est arrivé au camp d'entraînement, puis clic-clac de Vegas, ça n'a pas été trop long, bang, il est retourné dans la Ligue de l'Ouest. Il a brûlé la Ligue de l'Ouest, il a eu des séries incroyables, il est allé à la Coupe Memorial, il est arrivé ici plein de confiance, puis lui... Il a été capable de s'ajuster à ce que le Canadien, on lui a donné comme joueur. Quatrième trio à droite, après ça, un peu au centre, après ça, troisième trio au centre, après ça, il a monté les échelons. Puis il a prouvé à l'organisation que lui, les mineurs, pour le moment, c'est pas pour lui, puis ça sera jamais pour lui. Ça va peut-être être la même chose avec Caulfield. Caulfield, on ne sait pas ce qui va se passer au cours de la saison, mais de ce que j'ai vu, Caulfield ne jouera peut-être jamais un autre match dans l'Américaine. Mais s'il perd confiance au mois de janvier, il ne faut pas avoir peur de retourner des gars dans les mineurs pour les garder longtemps avec l'organisation. Ça veut dire qu'une chose, notre profondeur n'est pas à hauteur encore dans l'Américaine, parce que si on avait un jeune vétéran qui ne serait pas à faire la job de joueur de centre pour deux semaines avant que les gars soient en santé, bien moi, le Poehling, je ne veux pas le perdre, je ne veux pas l'échapper. Va-t'en jouer avec Jean-François Roux à Laval. Puis je peux te dire en affaire, messieurs, à ce prix que je tenais d'en parler de Poehling.
Bon, on n'en parlera plus, quand on va revenir sur la défensive. Ouais, on est tous tannés. Mais d'après moi, on n'en parlera plus ben dans pas long. Je pense que c'est une question de temps. Hey, on revient-tu à la défensive un peu, Ben, dans les sujets que tu voulais nous parler? Entre autres, tu voulais jaser un peu de Weinman. François en a parlé. Je pense que c'est unanime. Je pense que tout le monde voit la même chose, mais du côté de l'état-major du Canadien, on semble peut-être voir quelque chose que nous, on ne voit pas. Dans le cas de Weidman, Kulak, tu l'aimes bien. François disait que c'était pas son préféré, mais qu'il mérite de jouer. Je vais t'entendre là-dessus un peu.
Ben moi, je trouve que Kulak, c'est toujours le joueur depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il s'est installé avec l'organisation. Au début, on ne le connaissait pas. Et on le connaissait, mais on ne savait pas s'il n'était pas en mesure de s'imposer, de le réclamer. Puis, finalement, ce gars-là, il fait un job. Est-ce qu'il peut faire ça sur un calendrier de 82 matchs, sur une base constante, à tous les matchs? Non. Mais présentement, pour moi, là, ce qu'il a fait au cours des dernières années et ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé avec le Canadien, ce que j'ai vu au camp d'entraînement, là, pour moi, il est en avant de Weidman. Sauf que Kulak, tu ne mettras pas sur la deuxième vague en avantage numérique. Fait que le gros problème présentement, moi, pour Kulak, là, c'est Edmundson. Parce que si Edmundson est prêt à jouer, tu peux le placer avec Jeff Petrie. Après ça, Sherratt, si tu veux lui donner l'opportunité de jouer avec Weidman sur un troisième trio pour commencer, c'est correct. Après ça, tu peux mettre Romanov avec David Savard. Tu peux mettre Kulak avec David Savard. Et là, Romanov peut être ton septième. Et là, la blessure à Edmundson te ferme des portes. Pourquoi? Parce que si tu as Weidman et tu l'utilises dans les bonnes situations puis tu le fais jouer sa deuxième vague, l'an passé, à partir du cinquième match en série contre Toronto, on a joué pratiquement à quatre défenseurs. Fait que Weidman, là, si les autres performent très bien, un Kulak ou un Romanov en contre avec un bon vétéran, Edmundson, Petrie et là, Sherratt, tu peux rouler à cinq défenseurs dans cette ligue-là. il n'y a aucun problème. Là, tu peux couper le temps de jeu à un gars comme Wideman et dire, tu vas jouer quand c'est le temps, contre les bons trios. On va te faire jouer peut-être plus sur des situations où il y a des mises en jeu en zone neutre, des mises en jeu dans le territoire défensif. Ça serait intéressant. Alors, tu sais, le problème de Romanov que François parlait, de Wideman, de Kulak, là, présentement, là, Spire Weber et Sidmundson n'est pas là pour le premier match. Moi, je pense que le Canadien est dans le pétrin. Fait que, je peux vous dire une chose, Sidmundson est prêt à jouer mercredi prochain, puis il n'a pas joué un match préparatoire, il va être dans l'alignement. S'il est prêt à jouer, là, puis ouais. On lui donne le feu vert, il n'y aura pas moins de pratiquer pendant 2 semaines pour revenir et jouer des matchs. Là. C'est go, 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 on a besoin de toi.
Sauf que là, il ne patine pas encore aujourd'hui, ni lui, ni Price étaient sur la patinoire. Donc là, on est vraiment à une semaine du début de la saison. Donc, ça commence à être inquiétant parce qu'il te reste 2 de tes 4 chevals que tu avais l'an passé en série éliminatoire. Si on rajoute, mettons, Savard, tu as peut-être 3 défenseurs réguliers de la Ligue nationale de hockey. Fait que c'est très mince de ce côté-là. OK, il y a plein
de carry, choses à... Hein? Il n'y a pas de carry.
Comment en plus, tu n'as pas de Price.
Ah non, il n'y a pas de carry. Price tous, il ne fait pas. Ouais. Vincent Roy, il dit « Wideman égale Gustafsson ». Non, là, je pense que Gustafsson a mis plus de points dans sa vie dans la Ligue nationale de hockey que Wideman en mettra en 3 ans. Sauf que Wideman, même s'il n'est pas bon en défense, d'après moi, il n'est pas aussi raisin que Gustafsson l'était. Je ne sais pas si tu es d'accord, Ben.
Oui, mais regarde, vite fait, là, pendant que tu parlais, là, je pense encore à ça. On parlait de Ouellet tantôt. Là. Mais après Ouellet, là, nommez-moi un défenseur d'Américain qui est prêt à dire ben, Goulet, tu t'en vas des mineurs. Là. Tu sais, je sais qu'on va peut-être lui faire vivre quelque chose là, d'ici au prochain match, pendant, je ne sais pas, peut-être 2-3 semaines, là, en début de saison, sans y faire jouer ses 10 matchs. Là. Je ne vois pas comment il peut jouer ses 10 matchs. Il a pas été bon il a été bon en première période dans le match de vendredi à Ottawa. Depuis ce temps-là, c'est très, très difficile pour lui. Mais c'est ouais, ça le problème. C'est ça le problème. Tu sais, on a des Yelonen, des Pezzetta, des Harvey Pinard. Harvey Pinard, moi, je pense que lui, il a besoin de millage. Il a besoin de millage, c'est normal. Là. Moi, je suis d'accord avec ce que François a dit, mais c'est un peu le même problème. Là. Tu sais, tout le monde nous parlait de Josh Brooke, il va être incroyable. Puis Yoa Jolson, lui, ça a été blessure. Là. Mais on n'a pas de jeunes présentement qui sont capables de prendre la relève. Tu es obligé d'aller chercher Wineman. Tu as signé Sherrod comme joueur autonome. Tu as amené Edmundson. Ça a mis Nico. Ça a mis Nico.
Tu fondes pas de grands espoirs, Ben, sur Sammy?
Sammy, là, il va être bien payé pour jouer dans l'Américaine, puis ça va être un gars qui va pouvoir venir t'aider une fois de temps en temps. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je pense que notre profondeur va peut-être arriver là, dans 1 an ou 2 avec tous les gars qu'on a repêchés. Écoute, c'est la plus belle chevelure que j'ai vue depuis que Mika Kiprusov est arrivé en même temps que Sakou aussi avec le Canadien. Tu es où de ça quand Mika Kiprusov est revenu?
Oui, le mallet.
Il avait les cheveux longs. Ah oui, le mallet. Je pense que M. Corey avait dit coupe-toi les cheveux parce que pas longtemps après, il avait les cheveux courts. Un peu comme quand je suis arrivé à Hull, Charlie.
On le voit, le Nico. Burns, là,
laisse se couper les cheveux. Samy Nico, c'est un autre gars de profondeur. Bien payé pour jouer dans l'Américaine. Il va jouer la majorité de ces matchs-là. C'est pas un gars qui est capable de jouer dans la Ligue nationale. C'est une base régulière. Quand tu as un gars comme Wideman, puis. Dans ses bons matchs, ça va être correct. Dans ses mauvais matchs, il va jouer à 5 défenseurs. Ça va être la même chose quand Sammy Nicou va être dans l'alignement. Il va reconnaître des bons matchs, il va pouvoir le rouler. Puis quand ça ira pas bien, bien, tu coupes ton banc et tu ne peux pas jouer. C'est ça. On a un manque de profondeur dans la Ligue américaine. On va avoir un bon club dans la Ligue américaine parce qu'on a beaucoup de vétérans, mais des gars qui sont capables de venir solidifier ta base, là, c'est ça. Puis je peux me permettre
de dire. Moi, je m'en fous. M'en fous, Ben, d'avoir un bon club dans la Ligue américaine. Je veux avoir un bon club en haut. Je contemple le Rocket, là, mais moi, je veux que c'est en haut qu'on gagne, tu sais.
Non, je sais, puis un jour, là, quand tout le monde va être en santé, puis c'est dur d'avoir un club en santé, en général, durant toute une saison. Mais disons que tout le monde sera en santé, là. Je vous écoutais tantôt quand vous parliez François, vous parliez d'Hoffman. Mais si Hoffman se retrouve avec Jake Evans sur ton 3e trio, Gallagher, puis le reste, là, ça reste comme ça, là. Tu te retrouverais avec Armia à 3.4, puis Lekkonen à 2.3, puis Paquette ou Perrault comme tes joueurs de centre ou tes gars interchangeables pour remplacer ces gars-là. Ça veut dire 2,3 millions pour Lekkonen sur ta cap, 3,4 millions pour Armia sur ta cap. Ça vous prouve-tu à quel point qu'on ne développe pas de jeunes? Parce qu'avec un plafond salarial, là, tes gars de 4, là, c'est des jeunes qui ne coûtent pas trop cher ou c'est des gars de 4 qui sont capables de faire le travail qui ne coûtent pas trop cher. Fait que nous autres, c'est en comité. On ne paye personne bien, bien cher à part Price. On n'a pas de Matthews à payer, on n'a pas de Tavares à payer, mais on paye des gars à 4, à 3,4, à 2,3. On peut-tu en dépenser un petit peu plus dans le top 6, dans le top 9, pour avoir des gars qui vont nous amener à un autre niveau. Puis là, c'est dur de dire ça parce que le Canadien s'est retrouvé dans une finale de Coupe Stanley, mais...
Alors, ça veut dire, regarde, ils font pas une ronde quand t'as Matthews et Marner à 10 millions.
Ouais, ouais. On jouera pas dans la même division, Martin, cette année.
Oui, ben on verra. Ça va être intéressant. Il y en a des plus fortes des divisions. Celle du Canadien, c'est une forte. Celle de la Centrale, c'est une forte. Celle de l'Ouest, c'est une pourrie, tant maudite. Métropolitaine est forte.
Métropolitaine, oui. Je pense qu'on va jouer pas mal contre la Métropolitaine aussi. Hein? C'est ça. Tu sais, des fois, la vie, c'est faite comme ça. Puis, s'il y en a un qui est placé pour pas dire, je peux pas rien dire, puis jamais je vais dire qu'il méritait pas d'être là. En 93, je l'ai entendu, les gens disaient « Ouais, mais vous ne méritez pas d'être là, les Pingouins sont éliminés. » Ben oui, mais tu contrôles ce que tu peux contrôler. Tu vois les clubs qui sont en avant de toi, peu importe ce qui arrive. Tu gagnes la Coupe cette année, tu la gagnes. Le Canadien ne l'a pas gagné, mais en 93, les Pingouins sont éliminés par les Islanders. On a pogné les Islanders, puis après ça, on a pogné les Kings qui avaient éliminé le Toronto. On ne contrôlait rien là-dedans. Nous autres, la seule affaire qu'on contrôlait, c'est nos performances quand on sortait sur la glace. C'est la même chose que le Canadien.
Attention, là. Je suis d'accord, là, mais l'an passé, là, on n'enlèvera pas le crédit. Là. Ils ont battu quand même Toronto. Là,
Toronto, Vegas.
Ils ont battu Winnipeg, qui n'avait pas de méchante équipe. Mais Vegas aussi. Ils ont battu Winnipeg en 4 quand même, quand tu penses à ça. Là. Puis Vegas, les Canadiens, l'année passée, ils ont accompli de belles choses. Sauf que là, je vous écoute tout parler depuis le début de l'émission.
Attends, Yann. De toute façon, le Lightning, c'est pas une équipe championne. Non, mais Yannick, de toute façon, le Lightning, c'est pas une vraie équipe championne de Coupe Stanley. 2 coupes pandémiques. Ça vaut rien, ça. Mais pas des saisons complètes.
Ça, j'en bac pas dedans, moi. Pas pantoute.
Hey, la première des Devils, c'était pendant un lock-out de 48 matchs.
En plus, tu vois bien.
C'est ça.
Ça vaut pas de la chenoute, ça, non plus.
En 86, d'abord, elle n'est pas bonne parce que Steve Smith avait marqué dans son but pour éliminer Edmonton. Il y a tout le temps de raison. Lâchez-moi une raison. C'est ça.
Non, moi, je pense que
c'est fait. That's it.
Yannick, il faut rester positif. On a beaucoup d'alliés qui sont capables de marquer des buts. Moi, je pense encore qu'il manque un joueur de centre. C'est sûr que la blessure à Weber, ça fait mal. Moi, je pense que Jake Allen, avec Montembeau, pour débuter la saison, si c'est pour une courte période, les gars vont être capables de faire la job. Je pense qu'on va être meilleur en avantage numérique. Moi, c'est ça. On verra comment ça va se passer. On verra. Tu sais, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés avec l'organisation l'an passé. Puis là, tu en as encore beaucoup qui arrivent. T'sais, c'est vraiment là, c'est un changement d'identité. Là, on est allé chercher plein de gars l'année d'avant. Anderson, Toffoli, Edmondson est arrivé. Avant ça, c'était Sherrod l'année d'avant. Là, cette année, c'est Perrault, Savard, Pocket, Hoffman. Ça roule. Là, on a un roulement de joueurs. Il y a une chimie qu'il faut que ça s'installe aussi au niveau de l'équipe et au niveau des joueurs quand ça arrive comme ça. Là.
C'est clair. Des commentaires à Guy Thomas. Ben, quand le CH laisse partir Dano parce qu'il ne voulait pas payer 5,5 pour un centre numéro 3 et le remplacer par Evans à beaucoup moins cher, le monde chiale en disant que tantôt, Guy fait ce commentaire-là en disant investissez en avant. Des fois, il fait, dans le fond, son message, c'est si on paye moins cher, on est pour avoir mieux. Exemple, Evans versus Dano à 5,5.
Ouais. Mais ben, c'est-tu quoi, moi, tantôt, tu disais, Martin, je chipotais. C'est mieux avoir Dvorak que Dano à 4,5, 5,5. Tout à fait d'accord avec toi. Mais j'aimerais mieux avoir Dano dans mon alignement à 5,5 que Hoffman à 4,5 pour 3 ans.
Ah, Hoffman, c'est lui, ça, tu ne me le vendras pas, c'est sûr.
Ouais.
Et lui, le CH, il l'avait tatoué sur le cœur. C'est un Québécois. Il venait pour jouer. Il a passé.
Ça, je te le donne. Puis, sais-tu quoi? On aurait un allié le moins et un centre de plus.
C'est ça. J'ai eu un petit appel.
Ben, il a appel.
Je sais pas si ça a coupé. Ben oui, mon chum Sam qui m'appelle mes sujets pour l'entraînement. Il ne doit pas nous écouter. Il ne doit pas nous écouter, les gars.
Non. Ben tu lui donneras de la chenoute tantôt. Là.
Ben c'est ça. C'est ça. Il y a des décisions qui se prennent au niveau de l'organisation. Il y a des raisons. On n'est pas dans le secret des yeux, dans le code d'Anneau puis Bergevin, la relation que ces deux gars-là avaient. Je comprends pourquoi tu amènes Hoffman. Pourquoi tu l'amènes si longtemps avec l'équipe? Ça, je ne le comprends pas. Tu sais, je l'aurais avalé si tu m'avais dit. Puis on verra, peut-être Kaufman va devenir quelqu'un, une personne exceptionnelle, puis il va relancer sa carrière avec le Canadien. C'est ce que je lui souhaite, on verra. Mais il reste que quand tu as des gars qui sont dédiés, qui sont contents d'être là, puis qui se donnent à chaque match, il me semble que tu les gardes, ces gars-là. Tu les gardes parce que c'est l'identité, puis le sentiment d'appartenance, puis la culture que tu veux promouvoir pour les 5-6 prochaines années avec ton organisation. Je pense que c'est le mandat d'un DG et d'un propriétaire de faire ça. Ils ont pris une décision qui était différente. Ils ont amené un gars qui était un troublemaker, qui est capable de la mettre dedans. On verra où ça va nous mener. C'est tout. Mais moi, je peux te dire que je pense pas que ça aurait empêché le Canadien de faire la transaction pour aller chercher Dvorak si tu avais gardé Dano. Tu as remplacé Jake Evans, ton quatrième, pour lui donner le temps encore de continuer à progresser comme jeune joueur, qui peut peut-être moins cher, mais c'est ça. C'est ma façon de voir les choses. Peut-être que je suis dans le champ, mais on verra.
Non, t'es jamais dans le champ. Martin. Hey, les gars. Oui, vas-y, Yann.
Non, vas-y.
OK. J'ai envie de parler d'un peu d'autre chose que le Canadien, aller un peu ailleurs. Avez-vous vu Corey Perry, le Lightning et les Panthers, la foire pognée hier? C'était, je pense qu'il y a eu trois mêlées générales. Perry a même menacé un gars avec le bâton au bout du bâton. Vasilevski s'est fait frapper en arrière du filet. Perry est allé se revenger sur Spencer Knight, le jeune gardien de but. La foire est pognée. C'est ça qu'on dit, hein, Ben? Des fois, une série éliminatoire entre deux équipes, ça allume des rivalités.
Ça part une rivalité.
Ça part une rivalité, puis vous l'avez vu comme moi, la série entre les Panthers puis le Lightning l'an passé, c'était incroyable, là, comment ça a brassé cette série-là. Des fois, je me demandais même s'il n'y a pas quelqu'un qui était pour rester étendu sur la glace, tellement c'était jusqu'à un niveau, des fois, certains soirs, un peu trop intense à mon goût. J'aime ça, le jeu physique, là, je trouvais que c'était rendu sauvage, mais... tu sais, Tempa, après l'élimination en 4, a réalisé qu'il fallait qu'il y ait un petit peu plus de grit. On était chercher Gaudreau, Coleman, ces gars-là sont partis aujourd'hui, là, mais on dirait que cette identité-là, ils l'ont gardée. Moi, c'est ce que je remarque des Panthers de la Floride. Les Panthers de la Floride, là, avant, là, c'était une équipe de soft, comme Michel Therrien disait. Soft. Il était soft. Il était capable de jouer hockey. Quand ça allait bien, il était soft. Là, Depuis l'an passé, avec le nouveau DG qui est arrivé là, il y a eu un changement d'identité. On a amené des joueurs qui sont un petit peu plus papier sablé dans l'organisation sur le troisième, quatrième trio. Tu sais, au lieu d'avoir des Colton Sevier puis des joueurs qui étaient des bons joueurs de hockey, mais qui n'étaient pas trop impliqués, on a remplacé par des gars qui sont impliqués. C'est en train de changer la culture au niveau de la Floride. Puis moi, je pense que c'est ça qui va faire en sorte que les Panthers vont continuer à grandir au cours des prochaines années. Puis ça, c'en est un autre, rapidement. Là, je sais que je parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est la première. Hey, comment ça se fait que Corey Perry, là...
C'est correct, t'es ouais, là pour ça.
Hey, comment ça se fait, là? Vous allez... Non, on ne veut pas y donner 2 ans, Corey Perry. 1.1. Je me souviens, là, on a déjà signé des gars comme Semin à 7,50, qu'on disait, hey, pas un gros gamble. On a amené plein de gars comme ça. Ouais, Samsonov, puis je vous en nommer. Le dernier, là, que j'ai en tête. Pourquoi qu'on n'est pas capable de donner une deuxième année à 1.1 avec un plafond salarial qui va probablement augmenter l'année prochaine parce qu'il va y avoir du monde dans les gradins, là, fait que les revenus devraient être au rendez-vous, un nouveau contrat de télé, tout ça. Là. 1.1 million pour 2 ans. S'il est plus bon dans la deuxième année, je m'en fous. Tu feras ce que tu voudras avec. Tu le placeras au ballottage, il prendra sa retraite. On s'arrangera pour masquer son salaire. On s'arrangera. Ben non, on le laisse aller. On aime bien mieux...
On aurait dû le garder.
1.1 million. Je ne parle pas là, de 3 millions par année pendant 2 ans, 6 millions. Je ne comprends pas ça. Je comprends pas.
Puis ça va faire mal, je pense. Pour vrai, ça va vraiment faire mal. Ouais, ça va faire mal aux Canadiens, cette perte-là. Hey, avant de s'arrêter pour la pause télé, ça va se poursuivre sur le web jusqu'à 13h, mais juste mentionner, Martin, si tu disais là, que hier, ça a brassé pas mal, as-tu regardé le calendrier des prochains jours du Lightning et des Panthers? Ils s'affrontent encore demain, puis ils s'affrontent encore samedi. Fait que je sais pas s'ils vont garder le même pace, mais on m'a dit de quoi, ils vont avoir des gars maganés, parce que là, c'est un 3-3 entre les deux. Ça a parti des hostilités hier.
Yann, hier, les Panthers ont peut-être perdu un gros joueur dans cette échauffourée. Noël Achary, dans un échauffourée, servirait un genou. Fait que s'ils ont perdu ce joueur-là, c'était un excellent troisième centre pour eux. Là, tu avais Barkov, Benin, Achary. C'est une équipe qui est bâtie solide. Puis là, tu as peut-être perdu Achary dans une niaiserie de camp d'entraînement. Comme tu l'as dit, là. Mais eux n'ont pas le choix de jouer un contre l'autre, Ben. Ils restent dans la même péninsule. Là. Fait que, ils sont tout seuls au monde dans leur...
En tout cas, je peux dire que si j'étais dans les souliers de John Cooper et Joel Canville, je pense que je vais attendre. Il y a une pause. Là. Je vais revenir là-dessus après.
Ouais, bon. On va s'arrêter.
On dit bonjour à nos mères.
OK, Ben, vas-y, tu peux poursuivre. Tu disais si tu étais dans la série de John Cooper.
Ou de Joel Canville, je me sens que je fais un petit texto, un petit téléphone. Je dirais, on prend ça relax les deux prochaines. On peut juste jouer au hockey. Puis après ça, là, quand la vraie saison commencera, on se tapera sa marboulette un petit peu plus.
Ouais, ben, c'est peut-être ce qu'ils vont faire, honnêtement. Là.
un moment donné, là, les matchs préparatoires, c'est comme le coup de Tanev avec McDavid. Là, tu veux pas avoir ça en match préparatoire.
C'est ça.
Non, mais tu trouves-tu ça correct que McDavid aille chialer?
Oui, parce que c'est un geste dangereux, mais je comprends aussi la réaction de Tanev. T'sais, je me mets dans l'essuie de Tanev. Là, c'est des fois, quand on voit ça, nous autres, ça fait longtemps, là, c'est un geste pratiquement normal. C'est l'instinct qui fait faire ça. Je pense pas qu'il a fait ça pour blesser McDavid. C'est juste que l'autre,
pense pas, moi,
il
non plus,
scène. Il arrive à 100 000 à l'heure, il peut changer de direction comme il veut. Fait que, moi, je pense que c'est juste étiré à la jambe. C'est une réaction. Je suis battu, il s'en va à l'intérieur, je suis fait, je me sors la jambe, mais je pense pas qu'il le fait pour blesser. L'intention, je ne suis pas convaincu que c'était pour blesser, mais il l'a sorti quand même. Fait que, tu sois en contrôle. Et c'était risqué aussi. Ce que j'ai aimé de McDavid dans ses propos, c'est qu'il a dit que c'était pas juste dangereux pour lui, c'était dangereux aussi pour le gardien de but des Flames. C'est ça, là. Mais il va tellement vite que c'est. Il est hors norme, McDavid. Il est hors norme.
Hey, il patine dessus, c'est incroyable.
Comme Yannick.
Ouh.
Débord. Ouais, quand j'avais 4 ans. Aujourd'hui, là, oh, bye bye. Pis ça, toi, Martin, t'étais gardien de but parce que tu voulais pas patiner.
Ouais, hey, écoute, en plus, mon père m'avait forcé à jouer défenseur avant que j'aille dans le but parce qu'il me disait de faire apprendre à patiner avant d'aller dans les buts. Fait que. Qu'est-ce que c'était long cette année-là? Tu sais, quand tu veux pas jouer quelque part.
Fait toi, que, avec, t'avais pas de reculons sur ton char?
Non, j'ai pas reculons comme gardien, c'est. Non, moi, je sais pas, je me sentais pas dans l'action quand que j'étais à la défense. Je voulais être dingue net, moi, depuis toujours. Mais, hey, on parlait des Panthers de la Floride. Verhaeghe, Barkov, Sam Reinhardt, on oublie, nouvelle acquisition des Panthers. Huberto Bennett, on va faire le duo, mettons, avec Owen Tippett. Mason Marchman, qu'on a vu dans les séries l'an passé, avec Joe Thornton au centre et Anthony Duclair à droite. Et la quatrième ligne, Vatrano, Achary, s'il peut jouer, et Patrick Hongvis. Tu parlais de profondeur tout à l'heure, ça commence à être pas pire en Floride.
C'est ça. C'est de la belle profondeur, puis c'est du papier sablé. C'est ça l'identité qui est en train de changer. C'est ce que je vois. C'est avec un entraîneur qui aimait ça. Il aimait ça. Joel Quenneville, quand ça brassait, ça a brassé dans ses bonnes années à Chicago. Il y avait des gros bonhommes, là, puis... Non, c'est ça. C'est une équipe qui va être capable de te faire mal, qui va être responsable. Mais le petit papier sablé que tu as besoin là, pour amener un club à un autre niveau, ils te font aller le chercher. Donc, très bel job de la part des Panthers.
Ouais, hâte de voir comment ça va se passer dans cette division-là. Vas-y,
le problème, c'est Bobrovski.
Je pense que. Ouais. Ouais. Ben, il est capable d'être c'est très bon, en tout cas, mais il coûte cher. Ah ouais, c'est ça, il coûte cher. Mais, tu sais, ce que j'allais dire, c'est que le Lightning, les succès du Lightning, je pense, ont poussé les Panthers à aller chercher des gars pour s'amener peut-être plus au même niveau, puis ils ont vu aller. Puis c'est drôle parce que Jonathan Huberdeau, l'année passée, avant là, la dernière saison, puis c'est ce qu'il me disait, tu sais, il dit, quand tu vois tes voisins gagner, tu as envie de vivre ça, puis là, tu veux que l'équipe fasse les changements pour nous s'amener à ce niveau-là. Série incroyable contre eux l'an passé, c'était bon, c'était intense. Puis là, ben, cette année, comme Martin l'a dit, là, hier, c'était le premier affrontement entre les deux. Il m'a dit de quoi. Je pense que cette rivalité-là a monté d'un cran, puis elle va être bonne parce que c'est deux bonnes équipes de hockey. Ça va être le fun. Puis quand tu regardes ça, tu dis, ouais, ça va être assez fort dans l'Est quand même. Hein? C'est pas fait. C'est pas un gimmick. Là, le Canadien en série, loin de là.
Non, j'ai hâte de voir ça. Puis l'autre chose, t'as absolument raison. La défensive, c'est correct. Là, Ekblad va revenir au jeu. Mais Ekblad, moi, je trouve que c'est jamais développé comme notre défenseur. Je pense qu'il devait revenir. Mais les commotions, je pense que les commotions qu'il a eues en début de carrière, ça lui a fait très mal. Puis quand je parlais de Bobrovski, je pense que Spencer Knight va probablement avoir autant de départs que Bobrovski, peut-être même plus. J'ai hâte de voir comment le jeune va jouer. Là. Moi, c'est le côté monétaire dans le cas de Bobrovski. Parce qu'un jour, ce gars-là, il sera plus capable de faire la job. Là. Il doit le ressentir que l'organisation a plus confiance en lui, mais il gagne quand même beaucoup de sous. Fait que c'est performer dans ces situations-là, c'est pas facile. Puis je sais pas si un jour ils vont être capables de passer un mauvais contrat comme ça à un club à travers la Ligue qui va vouloir aller un petit peu plus haut que le plancher, mais ça va être un problème. Parce qu'un jour, quand t'as besoin. Les coyotes, c'est ça. T'sais. Un jour, tu vas avoir besoin de ce genre-là.
Soutien coyote.
Oui, c'est coyote. Je sais pas s'il va en avoir d'autres, mais j'aime ce marché-là. Je pense que c'est un marché qui. Pour qu'ils apprennent à grandir. Je pense qu'un jour, si on est capable de créer quelque chose, je ne dis pas que ça va être plein à craquer à chaque soir, mais je ne pense pas que ça devrait être aussi vite que ça l'est en Floride. Là. Pas juste à cause des Québécois. Là. À un moment donné, moi, j'ai joué en Floride l'année où ils se sont retrouvés en finale de la Coupe contre l'Avalanche Colorado, il y avait du monde dans le building là, avec les rats. Là, mais l'aréna n'était pas à la même place non plus. Là, c'est peut-être plus dur s'y rendre. Là, mais il y avait du monde. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit recréé. Puis un sentiment d'appartenance. Puis ça, ça vient avec les victoires et tes performances en série.
En tout cas, on a hâte de voir ça. Qu'est-ce que ça va donner dans cette conférence-là? Je regarde les trios de tout le monde. Tu sais, t'aimes pas, on en parle pas mal, là, comme quoi que c'est l'équipe à battre. Là. Mais leur troisième ligne, là, c'est Ross Colton, Mathieu Joseph puis Corey Perry. Perry, c'est une 4, c'est correct, mais Perry, c'est une 3, on va peut-être trouver ça long. T'as Maroon avec Pierre-Édouard Bellemare puis Taylor Radish, qu'on attend depuis des années puis qui ne perce pas en formation. Ça serait ça, peut-être, tes deux derniers trios. C'est pas des trios
pas
champions de la Coupe Stanley, ça, là.
C'est pas Jojo, puis l'usure, les boys, oubliez pas l'usure. Fait deux coupes en moins d'un an, même si les calendriers ont été raccourcis, là, l'usure, là, puis tu perds le trio. T'sais, tu perds... Tu sais, Gaudreau, je pense que tu peux le remplacer. Et Hennigold puis Coleman, ils ne remplaceront pas. Ils n'ont pas personne dans sur le troisième, quatrième trio qui est capable de faire la job de Coleman. Coleman, c'est un gars sous-estimé. Là. Ben, Barclay Gaudreau, c'est un bon gars. Si tu le places avec les bons joueurs, lui a bénéficié de l'énergie et du talent de Gould et de Coleman. Fait que ça, c'est devenu un complément. Mais si tu avais juste gardé Gould et Coleman, puis tu mets peu importe qui tu veux mettre, là, que ce soit Maroon ou Colton avec ces gars-là, je pense que le trio aurait continué à fonctionner. Et là, ça va faire mal.
On aura amplement le temps d'en discuter et d'analyser tout ça dans les prochaines semaines parce que ça commence pour vrai la semaine prochaine. Ça va être le fun aussi au début de la semaine de faire un peu le tour des équipes. Je sais que Martin aime bien ça, là, de nous analyser chacune des formations. Donc, on aura l'occasion de le faire. Hey Benoît, gros merci pour ta présence et ton retour avec nous. Puis on se reparle la semaine prochaine.
Yes, sir. Ça a été un plaisir, les boys. Bonne fin de semaine. On se reparle la semaine prochaine.
Merci, Ben.
Salut, Ben.
Ciao.
Ciao.
Martin, on y va maintenant avec les trois étoiles de la journée, les trois étoiles du jour dont a fait la sélection avec notre ami Tim aux médias sociaux. C'est parti avec la troisième étoile.
Écoute, je vais te faire un roulement de tambour parce que j'ai pesé sa mauvaise fenêtre puis j'ai fermé mon retour. Fait que ça te tente-tu de faire la troisième?
Ah! OK, je vais y aller. La troisième étoile de Third Star du RDS.ca. Pascal Blais.
Tu veux faire la deuxième aussi?
Ou non? OK, c'est bon, je vais aller faire les trois. La deuxième étoile de Second Star du Facebook RDS, Olivier Gaulin-Gingras. Et la première étoile de First Star du Facebook On Jase, Régent Cajolet.
Ouais, je viens d'avoir le retour. Régent Cajolet.
C'est fini. Hey, un gros merci à Valérie, merci. T'avais hâte de partir, là, c'est ça?
Non, je fermais mes fenêtres, puis là, tu sais, je veux garder juste le retour ouvert. Fait que je fermais des fenêtres, tu sais, j'avais regardé les trios, puis là, je fermais des fenêtres, puis à un moment donné, fout, le retour est parti, j'ai fait « Oh non! » Puis là, pendant que j'essayais de le rouvrir, il fallait juste tourner, fait que... C'est ça.
Hey, un gros merci aux gens de nous suivre, de nous écrire. Je viens de voir un message vite. Vicky Jolicoeur qui dit « Mon heure de dîner est beaucoup plus le fun depuis deux jours. » Mais tant mieux, nous autres ici, on est bien contents d'être de retour. Donc, merci à Valérie, merci à Tim, toute notre équipe de production à RDS en régie. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de travailler avec vous. Puis nous autres, Martin, ben, demain, on va être là à nouveau sur le coup de midi. Puis pense à ton joueur électrisant là, qu'on va surveiller le match de demain soir. Là.
Ouais, j'ai une petite idée à part de ça. Et je viens de te donner un indice, puis tu le sais même pas.
Ah ouais? Ben, tu m'en as dit un tantôt. OK, je vais y penser. Hey, okay. Bonne journée, mon chum, on se reparle demain. Salut tout le monde, merci d'être là.
Bye, salut.